sur le Jura, lapin en triga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Stéphanie est la maman de 3 enfants. Lorsque son mari et elle ont décidé de faire leur premier enfant, cela ne s'est pas passé comme prévu. 1 an s'écoule avant qu'ils procèdent à des examens dont les résultats s'avèrent peu concluants. Il leur faudra donc passer par la case PMA. Un parcours qui déplaît fortement à Stéphanie et au bout de 2 ans, elle décide que ça suffit. Ce n'est pas comme cela qu'elle veut avoir un enfant. La décision de l'adoption apparaît alors comme une évidence. Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte tout le parcours mené pour pouvoir adopter son premier enfant, puis son deuxième en Éthiopie. Elle nous parle de la construction de leur famille et de l'arrivée de son 3e enfant biologique qu'elle aura porté pendant 9 mois. 3 enfants, 1 grossesse... Voici un bel épisode sur les différentes facettes de la maternité, dont le point commun n'est autre que l'amour d'une mère. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie!
Bonjour!
Merci beaucoup de nous partager ton histoire dans Le Tourbillon. Alors, tu es maman de 3 enfants, quel âge ils ont?
C'est ça. Alors, il y a Gabriel, le garçon, qui a 11 ans bientôt, Lucie qui a 7 ans et Joseph, le petit dernier qui vient d'avoir 1 an.
Comment est venu le sujet de la maternité au sein de ton couple?
Très vite et très tôt.
Ouais.
On a été en couple... Enfin, moi, j'avais que 17 ans quand on s'est mis en couple, on va dire, quand on s'est mis ensemble. Et on a su très vite qu'on voudrait des enfants, même si c'était pas à l'ordre du jour à ce moment-là, évidemment. On s'est mariés, j'avais 22 ans, donc assez tôt aussi, surtout que j'étais encore étudiante, j'avais pas fini mes études, donc en 2001. Et on savait que ça allait venir. Et en fait, l'année suivante, donc en 2002, on a décidé de se lancer.
Et voilà. Alors, comment ça s'est passé?
Ben, pas bien. Enfin, pas bien. Si, très bien. Mais, en fait, ça n'a pas marché du tout. Donc, évidemment, la première année, on nous dit, c'est normal. Voilà, on attend. Après, on commence à faire des examens. Et puis, au bout de, je crois, 2 ans d'essai, on nous a dit que les analyses étaient très mauvaises et que sans fécondation in vitro, ça serait impossible.
Oui.
Donc là, ça, c'est un gros coup de massue, hein, évidemment, c'est pas une super bonne nouvelle. Et donc, on est rentré dans un protocole de fécondation in vitro. On nous a mis en contact avec un centre de PMA sur Paris. Et là, en fait, c'est attendre pour un rendez-vous. Donc, on a rendez-vous 9 mois après. Enfin,
oui.
On a perdu énormément de temps à cette période-là parce qu'on était dans le public et pas dans le privé. Hein, donc, forcément, on ne paye pas. C'est merveilleux, mais on attend. Mmh. On attend beaucoup, beaucoup. Donc là, il y a une période pas très, très jolie, en fait, parce qu'on ne se projette pas. On se dit, ah bah non, on prévoit pas de vacances cet été parce que on sait jamais si je suis enceinte. Enfin, et du coup, on faisait rien. Enfin, j'ai un peu l'impression. Voilà, on vivait, on était heureux, on se faisait des sorties au ciné, voilà. Mais,
très centré sur.
Ouais, mais en fait, on attendait quoi. On attendait que ça marche. Et on attendait le rendez-vous suivant. Et au rendez-vous suivant, on nous disait, faut refaire telles analyses. Et après, vous reprenez rendez-vous. Et puis, telles analyses, fallait un délai pour la faire. Et le temps passait. Enfin, il se passait plein de temps à rien faire, en fait. Et les premières fécondations in vitro, on en a fait 2 en fait, je crois que c'était en 2005 et 2006. Et ça n'a pas marché. Enfin voilà, donc avec tout, subir les protocoles, les suivis. Donc là je travaillais, j'avais fini mes études et je commençais à travailler. Je travaillais de nuit en plus, donc je faisais mes nuits, le lendemain matin j'allais au centre pour les examens. Enfin, en plus géographiquement c'était pas du tout le même endroit, enfin, c'était vraiment une galère, je perdais un temps monstre. Voilà, c'était épuisant, enfin, c'était pas rigolo, quoi.
Et comment t'as vécu ces échecs, entre guillemets?
Au début, je crois que la première fécondation in vitro, ça a été sur le coup, vraiment un cataclysme, enfin, vraiment. Et très vite, je suis remontée en me disant, non, mais ça va marcher, enfin, ça a pas marché là, mais ça va marcher. Et en fait, dans notre couple, on a toujours été, enfin voilà, dès qu'il y en avait un qui flanchait, l'autre était là pour le remonter. Donc c'était à tour de rôle, mais on a toujours été, il y a eu des hauts et des bas, mais heureusement, ça n'a jamais été trop les deux en même temps. On a toujours réussi à se remonter. Donc, Donc voilà, en 2006, on a décidé d'acheter une maison. Donc on s'est déplacé en grande banlieue, à Marne-la-Vallée. Et donc c'était déjà un projet. Enfin, on faisait quelque chose. Il se passait quelque chose dans notre vie. C'était un peu plus... voilà. Et en fait, moi, à cette période-là, je voulais... Alors, le message officiel que je donnais, c'est je fais une pause dans mes fives. Parce que physiquement, j'en pouvais plus. Mais en fait, je me suis retrouvée un jour à faire dans une salle d'attente d'un examen, d'une échographie pour surveiller une stimulation ovarienne. Et j'attendais, et je me suis dit, mais est-ce que je veux faire un enfant comme ça ? Là, toute seule, à attendre des heures, à être crevée, à... Enfin, et à ce moment-là, c'était vraiment ça. C'est, je me suis dit, de ça, il ne peut pas sortir un enfant. Enfin, je trouvais ça tellement moche. Alors, je ne remets pas du tout en cause les filles, hein, c'est pas du tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais comment cet enfant, il va pouvoir vivre avec toute la douleur qu'il y a ? Enfin, ça me semblait complètement aberrant. Donc, j'en ai discuté avec mon mari, et que donc, je me suis vraiment retrouvée à ce moment-là à me dire que toutes ces attentes, tous ces traitements, c'était pas comme ça que je voulais... Enfin, à ce moment-là, c'était pas comme ça que je voulais faire un enfant. Je voyais pas comment ça pouvait être... il pouvait sortir quelque chose de positif de tout ça, ce qui me semblait très très moche à ce moment-là. Mmh. Voilà. Donc évidemment, j'étais pas toute seule dans l'histoire, donc il a fallu en parler à mon mari. Et je me disais, j'avais cette petite voix dans la tête qui me disait « Ton enfant, il est ailleurs, quoi. » Vraiment, enfin, il y a eu un moment où j'ai senti que c'était le... fallait passer à autre chose et qu'on n'était pas sur la bonne voie. Mon mari n'avait jamais été contre l'adoption. Ça restait quelque chose, ça a toujours été quelque chose qu'on avait envisagé, mais peut-être plus si le reste ne marchait pas. D'accord. C'était autre chose que de se dire on arrête alors que les fécondations in vitro, on avait encore le droit d'en faire deux ou trois à ce moment-là. Parce que la sécurité sociale, elle en rembourse en tout 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Mais... Donc on était au milieu, si tu veux. Mais moi, je ne voulais plus. Et donc à ce moment-là, il a fallu que je lui dise. Donc ça, il l'a très bien entendu. Il m'a dit ok, mais il lui a fallu juste quelques mois pour. Voilà, il ne voulait pas se lancer dedans sans être à 100% pour.
Parce que là, tu lui as dit,
on se lance...
dans l'adoption.
Se lance dans l'adoption, voilà. Et puis, au bout de... Assez rapidement, hein, sincèrement, je crois qu'il lui a fallu 4 ou 5 mois. Enfin, voilà. Il m'a dit, OK, on y va.
Comment t'avais fait tout ce schéma, toi, dans ta tête, pour arriver à l'adoption ?
Je sais pas. Non, vraiment, hein, ça a toujours été quelque chose pour moi. Je suis intimement convaincue que la génétique, c'est une chose, c'est des liens, mais c'est pas tout, loin de là. Enfin, on peut très bien aimer des gens... que ce soit amoureusement ou voilà, qui sont pas de notre sang, et je voyais pas, enfin, je trouve ça très, voilà. Quelque part, je trouve ça hyper naturel, en fait. Il y a des enfants sans parents, il y a des parents sans enfants, enfin, où est le problème ? Enfin, voilà, pour moi, ça me semblait vraiment évident. C'était une évidence, voilà. Après, je sais que ça peut ne pas l'être pour tout le monde, et en soi, voilà, je pense qu'il faut une réponse à chaque personne, et nous, je crois que ça a été la nôtre, en fait.
Et dans le milieu médical, on t'avait proposé cette solution déjà ?
Non.
C'est toi qui a...
Ouais, par contre, la toute première fois où j'ai parlé à ma grand-mère de nos problèmes de fertilité, je lui ai dit, tu sais mamie, il va falloir qu'on passe par des traitements, tout ça, on n'aura pas d'enfant. La première chose qu'elle m'a dite, c'est, oui mais tu sais ma fille, parce qu'elle m'appelait comme ça ma fille, des enfants qui n'ont pas de parents, il y en a partout. Ça a été juste, je pense que ça a été la graine, la petite graine.
Donc ça a été l'élément déclencheur, tu penses,
oui, dans ta réflexion. Je pense qu'elle avait semé quelque chose.
Et alors, comment t'en parles à ton mari ? Comment le sujet...
Alors moi, je suis très, très scolaire, très organisée. Donc c'est, on se renseigne à fond. Donc, des bouquins, des blogs. Alors, des blogs, à l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Oui. Et sur l'adoption, pas du tout, en fait. J'en ai trouvé aucun. Mais il y avait des forums. Donc, sur les forums, il y a beaucoup de choses, du bien et du moins bien. Mais il y avait des forums. Mais j'ai lu tous les bouquins faits par des psys sur l'adoption. Je me suis renseignée, etc. Et puis après, faut rentrer dans l'administratif. Voilà. Faut faire une demande d'agrément. Donc, à son conseil général, enfin, voilà, c'est eux qui gèrent ça. Chaque conseil général gère les agréments de son département. Et donc, et ben là, on rentre, voilà, faut remplir un dossier, il faut attendre. Parce qu'on voilà, on fait une demande et on attend encore très très longtemps, hein, selon les départements. Mais nous, en Seine-et-Marne, c'était en tout cas à notre époque très très long. Donc on attend, puis après on a des visites et des entretiens. Donc on a une assistante sociale qui vient chez nous, on a des rendez-vous avec un ou une psy. Enfin voilà, on doit un peu montrer qu'on a réfléchi un petit peu à tout ça, quoi. Alors ce qui est très très bien, parce que clairement, même si moi ça me semblait quelque part très très naturel, il faut quand même se préparer à des particularités, il faut se poser les bonnes questions. Et puis que bah, faire sien un enfant qui est à l'origine pas le sien, c'est pas inné pour tout le monde, et que effectivement on peut pas dire open bar, voilà, c'est important qu'il y ait une certaine préparation en fait en amont. Après dans les faits là, je trouve que la préparation n'est pas toujours hyper bien faite, mais en tout cas on nous laisse la possibilité de, il y a au moins un cadre qui est posé par l'État, quoi. Voilà. Et donc ça, pour avoir l'agrément, eh bien, nous, on a mis 2 ans. Parce qu'en Seine-et-Marne, c'est très très long. Donc on a mis un petit peu moins de 2 ans, je crois, 22 mois.
Donc ça, c'est le papier qui t'autorise
à... C'est le papier, voilà, qui te dit, oui, voilà, vous êtes apte et vous avez le droit d'aller adopter un enfant. Donc soit on se met sur liste d'attente en France, ce qu'on a fait nous, mais on s'est mis en liste d'attente pour un pupille d'État. Mais à cette époque, donc là, on devait être en 2008... il y avait, en Seine-et-Marne, il y avait 5 adoptions de pupilles d'État par an, alors qu'il y avait des centaines d'agréments. Donc, moi, ça me semblait invraisemblable d'attendre quelque chose qui pouvait très bien ne jamais arriver, en fait. Mm. Donc, je me suis dit, bon, on se met sur liste d'attente, ok, mais on est acteurs, enfin, on se bouge, on reste pas à attendre. Je voulais vraiment qu'on soit moteur du truc, même si, effectivement, dans l'adoption, on attend encore énormément. Et donc là, bah c'est tous les forums, les sites internet, tout ça, où on épluche, où vers quel pays on peut se tourner, vers quel pays ça nous semble nous correspondre aussi, vers quel pays on sent un attrait, quel qu'il soit. Et nous, assez instinctivement, on s'est tourné, instinctivement, mais aussi de façon assez factuelle, en fait. Enfin, on s'est tourné vers l'Éthiopie, parce qu'à ce moment-là, en Éthiopie, on pouvait... il y avait beaucoup d'enfants à adopter, il y avait statistiquement, ouais, il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient d'Éthiopie. On pouvait avoir des enfants qui arrivaient relativement jeunes.
Vous aviez un critère d'âge ?
On s'était fixé jusqu'à 3 ans.
D'accord.
Ouais. Et clairement, moi, quand je me projetais, je me voyais avec un enfant qui marchait déjà. Parce que des bébés, c'était la bête rare en adoption, et du coup on nous dit tellement c'est impossible que moi je me voyais vraiment avec un bambin, mais de 1 an, 2 ans, enfin c'était voilà. Et puis en fait ça s'est passé autrement, mais donc on s'est mis sur on s'est intéressé à l'Éthiopie, et on s'est orienté vers l'Éthiopie en disant que c'était pas mal, qu'on correspondait aussi aux critères, parce qu'après chaque pays met des critères, donc il faut être marié depuis tant d'années, il y a plein de choses plus ou moins compliquées à avoir, et du coup, il y a certains pays pour lesquels c'est pas possible. N'importe qui peut pas s'orienter vers n'importe quel pays, en fait. Il faut aussi que
une personne célibataire, homosexuelle.
Voilà, célibataire, oui, mais homosexuel affiché dans certains pays. Malheureusement, c'est atroce, hein, mais c'est juste pas possible, parce que culturellement, voilà. Et donc, nous, on collait à peu près aux cases, on était dans les. On était à peu près presque le couple idéal, parce que relativement jeune, marié depuis longtemps. On connaît un peu, on a pu avoir le choix dans les pays, à peu près. Et en fait, après, une fois qu'on s'est orienté vers un pays, il faut être choisi par un OAA, donc organisme habilité à l'adoption, donc qui va faire ce pays-là. Donc là, on recommence, lettre de motivation, envoyer son dossier... rencontrer quelqu'un, montrer qu'on est motivé, montrer qu'on s'est renseigné, etc.
Donc c'était sur place là-bas ou c'était...
Non, c'est en France, c'est des associations qui sont en France en fait, d'accord. Et qui gèrent, qui ont des gens qui travaillent là-bas, ouais. Qui sont bien souvent des Éthiopiens qui travaillent là-bas pour eux, mais voilà. Et donc là, ce qui est fou, c'est que nous, il y avait, je crois, 3 associations qu'on pouvait contacter pour l'Éthiopie qui travaillait aussi dans le 77, parce que voilà, ils ne travaillent pas tous dans tous les départements. Et il y en avait une petite qui nous plaisait bien, et j'avais entendu dire qu'elle était vraiment géniale, que les gens qui étaient pris en charge par eux, c'était top, ils étaient chouchoutés un peu, qu'on était pris vraiment par la main, que les papiers se faisaient facilement, même si c'est jamais facile, mais ça se faisait le plus facilement possible.
T'avais pu rencontrer des parents qui avaient déjà adopté ?
Ouais.
Oui.
Oui, alors par le conseil général, il y a quelques réunions. Et puis, à ce moment-là, pas trop encore. C'était plus sur les forums. Mais par contre, une fois qu'on a été pris par l'association, là, il y avait des rencontres.
Okay.
De bon, parents bon. Qui allaient adopter, et voilà. Et donc, quand on a eu notre agrément, on avait déjà préparé toutes les lettres de motivation, toutes les associations. On attendait vraiment le papier pour envoyer les courriers. Et puis, mon mari me dit, non, mais cette petite association-là, enfin, qui n'est pas si petite, mais bon, cette association-là, je la sens bien, on n'en voit que à eux. Et moi, je lui dis, mais non, il faut envoyer à tout ce qu'on peut, parce que si on a un truc négatif, c'est du... Enfin, autant ouvrir. Et il me dit, non, ceux-là, je les sens bien, ceux-là. Bon, okay. Et ben effectivement, il avait raison parce qu'on a été accepté très vite par cette OAA-là et qui nous a suivis pour l'adoption de notre premier et après de notre deuxième enfant, en fait.
Et alors là, quand t'es accepté, quand vous êtes accepté par l'association,
ouais.
On en est à combien de temps ?
Ah ben là, nous, on avait commencé les procédés depuis 2 ans et on venait d'avoir notre agrément parce qu'on l'a fait très très vite. On avait tout préparé, en fait, on attendait juste le papier, l'idée qu'on l'avait vraiment, et on avait déjà préparé les courriers, tout ça, donc les courriers sont partis. Le courrier est parti la semaine même où on a reçu l'agrément, et qu'on savait qu'on allait avoir, mais après, c'est des histoires de signatures, de machin, on le savait que depuis quelques semaines avant. Et après, on envoie un dossier avec des lettres de motivation, donc ça, c'était prêt, c'est parti, et puis après, on est présélectionné, et il y a une rencontre avec quelqu'un de l'association, donc nous c'était une psychologue qui travaillait pour l'association, mais voilà, pour affiner notre dossier, et à la suite de ça, on a été accepté. Ça s'est fait, ça faisait un peu plus de 2 ans du coup qu'on était
partis. Est-ce que pendant ces 2 années, t'as voulu faire marche arrière, repartir
en
FIV?
Non,
pas du tout.
Non, pour moi
décidé.
C'était complètement, Et puis à partir du moment où on était accepté par cette OAA, cette association, c'est une association qui prend que des dossiers qu'elle va amener jusqu'au bout.
Mais avant
d'être Avant
accepté dans les 2 ans.
Non. Mmh. Non, j'étais vraiment... on était hyper motivés. Enfin, on le vivait... Enfin, c'était notre... c'était ça, quoi. C'était vraiment notre projet de vie. C'était... Non, il n'y a jamais eu de doute dans ce sens-là.
Mmh.
On a eu des doutes, comme tout le monde, mais pour ça, jamais. Ouais, ça a toujours été clair.
D'accord. Mmh, mmh. Et alors, une fois accepté par cette association, donc vous avez rencontré d'autres, d'autres parents ?
Oui. Donc, ils font... ce qui nous avait marqué, c'est à la rentrée, donc en septembre ou en octobre suivant, ils font la grande association générale, enfin, la grande assemblée générale de l'association, où là, en fait, y a nous, les petits nouveaux, entre guillemets, qui sommes en attente d'adoption, mais il y a aussi toutes les familles avec leurs enfants éthiopiens qui ont... adopté en Éthiopie, qui ont 15 ans, 5 ans, 6 ans, et du coup, on voit tout, et moi, ça m'avait boosté, mais... je m'étais dit, mais ouais, c'est nous plus tard, quoi. Et d'avoir quelque chose de concret, même si, effectivement, c'est pas parce qu'ils sont éthiopiens qu'ils ont les mêmes caractères, enfin, ça veut rien dire, mais c'était... Voilà, je pouvais me projeter sur une image, en fait.
Et t'as pu échanger avec les parents, justement, savoir comment ça s'était passé,
Oui, alors après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi, parce que... encore quelques années avant que nous on adopte, les enfants, les parents n'allaient pas les chercher en Éthiopie, ils étaient ramenés par 4 ou 5 enfants, et donc les parents les réceptionnaient à l'aéroport.
D'accord.
Par exemple, les choses ont évolué très très vite dans le monde de l'adoption, et il y a beaucoup de choses qui changent. Après, ça c'est juste le fait de comment ça se passe, comment l'enfant arrive en France, mais après sur comment ça se passe à la maison, ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on avait déjà travaillé avant, pendant l'agrément, les assistants sociaux, etc., nous font réfléchir à beaucoup de choses, parce que c'est quand même des enfants qui ont quand même vécu un traumatisme quand même assez, assez terrible. Enfin, ils ont été privés d'une façon ou d'une autre de leur maman biologique, Et après, vie en institution, puis grand chamboulement encore, on arrive en France, c'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes gens devant moi, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes odeurs, enfin c'est...
Comment ils vous préparaient à ça ?
On n'est pas vraiment prêts, en fait. On nous dit juste que... En fait, je pense qu'on peut pas se préparer, parce qu'il n'y a pas de réponse...
Il n'y a pas des façons de faire ?
Alors, si, en fait, je pense qu'il n'y a pas de façon de faire au sens propre, mais par contre, il faut y être attentif. Il faut déjà le savoir. Déjà, le savoir, c'est une façon de se préparer, en fait. C'est, déjà savoir que, s'il arrive et que, au début, il ne va pas forcément te sauter dans les bras, parce qu'il peut avoir peur, tout simplement, faut s'y préparer. C'est pas agréable sur le moment, mais c'est normal, en fait. Voilà, il peut très bien, je sais pas moi, ne pas dormir pendant 2 ans. Hein. Ça, c'est très, 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 très souvent. Les enfants adoptés ont beaucoup de soucis avec le sommeil en général. Voilà, juste tu le sais. Donc, non, c'était un peu préparé.
Donc, ça, c'est les assistants sociaux qui.
Oui, et puis les lectures que tu fais sur les forums et les autres parents que tu rencontres. Enfin, c'est, on se nourrit un peu de tout ça, quoi.
D'accord. Mmh. Et alors, donc, après cette assemblée
Eh bien, après, on attend encore. On attend. Donc là, l'association qui préférait toujours être un petit peu pessimiste, hein, parce que c'est mieux en fait, a posteriori, c'est bien mieux de nous dire ça, nous disait « Ah, oh, on pense que votre dossier, vous aurez un enfant d'ici 2-3 ans. » Bon. Ok. Très bien. Donc on attend encore une année. Le mois de juin suivant, donc ça c'était en 2009, juin 2009, je les appelle avant de partir en vacances parce que ça faisait quasiment un an qu'on était accepté par l'association et je voulais juste savoir où on en était, mais juste comme ça. Alors je voulais pas le faire trop souvent, je voulais pas être la pénible, mais là j'en pouvais plus, donc je les appelle. Et là, la dame qui gérait ça me dit allez, encore 9-12 mois. Et moi, j'ai trouvé ça, mais 9-12 mois, c'était comme une grossesse, quoi. Enfin, c'était, je me disais, ça y est. Enfin, et donc, on est parti en vacances la semaine suivante, et pour moi, j'étais enceinte. Ça allait se faire. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, notre dossier était déjà quasiment validé, et en août, donc 2 mois après mon appel, on a été appelé pour Gabriel. Mmh. Voilà.
Alors, ta réaction à ce moment-là
C'est mon mari qui a répondu. Et en fait, je comprenais que c'était pour ça qu'on nous appelait, parce qu'en général, ils appellent un soir assez tard à la maison. Donc nous, on a été appelés, il devait être 9h30, 10h, parce qu'ils veulent être sûrs qu'il est deux parents, en fait, qui sont à la maison. Et j'étais devant mon mari, et je lui disais, mais dis-moi quoi. Et je voyais bien que lui, on lui donnait des informations sur qui, quoi, une fille, un garçon, quel âge. Et il n'arrivait pas à me le ressortir, quoi. Enfin, c'était... Voilà, et donc à ce moment-là, on nous dit, on a un petit garçon, donc déjà on apprend un sexe, il a environ 3 mois, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous le voulez pas? Alors la seule chose, c'était que les tests sanguins du sida n'étaient pas sûrs, parce que il avait que 3 mois, donc il n'y avait pas de certitude à 100% qu'il soit indemne du sida. Et donc là, à ce moment-là, on a eu notre fils, quoi. Enfin, on ne l'a pas eu tout de suite, mais c'était notre fils, quoi. Pour nous, en tout cas, c'était notre fils. Donc, on avait juste son prénom éthiopien, qui lui avait été donné à l'orphelinat, un âge approximatif, qui en plus a été surévalué, ça, on s'en est rendu compte après, mais bon, peu importe. On n'avait pas de photo, donc on a donné notre accord, et elle nous a dit, vous recevrez la photo demain, par mail.
Et vous n'expliquiez pas son histoire
Parce qu'en fait, ils n'ont rien.
D'accord, ok.
Ils nous donnent ce qu'ils ont et en fait, y a rien que l'histoire. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on n'a pas d'histoire avant qu'ils soient à l'orphelinat. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mm-hmm. Ça, c'est aussi... Il y a une phrase d'un médecin qui est spécialisé dans les enfants adoptés qui dit « Ça fait peur, l'adoption, parce que c'est mettre ensemble la confiance et ne pas savoir. » Effectivement, nous, on savait que ça se passerait bien, qu'on ferait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on ne savait pas plein de choses.
D'accord. Voilà. Ok.
Donc le lendemain, on reçoit la photo de notre fils. Et alors, ce qui est très très drôle, ça je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, avant qu'on ouvre le mail, on savait qu'il y avait la photo dedans, c'était sur l'ordinateur portable de mon mari, et il me dit, je te préviens, je vais peut-être pas craquer complètement dessus, il va peut-être me sembler, je pense que ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il allait peut-être lui sembler inconnu, t'attends pas à ce que je sois chamboulée, je crois que c'est ça qu'il m'a dit, t'attends pas à ce que je sois chamboulée. La photo s'est affichée et je pense qu'on n'a pas parlé tous les deux pendant 15 minutes. On était... Voilà. Donc, en fait, il avait bien craqué. C'était...
voilà. Tous les deux sous le coup de l'émotion.
Ouais, tout à fait. Donc,
Après ce long parcours de 3 années, finalement.
Ouais, 3 années pour l'adoption.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, encore plein d'attentes et plein de papiers. Alors là, nous, ça, c'était tout début août 2009. Et on nous dit... L'association nous dit, on va tout faire pour que votre dossier soit très vite validé, parce qu'en fait, là, on attend que notre dossier passe au tribunal éthiopien, donc en Éthiopie, pour que le jugement éthiopien dise que c'est notre enfant pour l'Éthiopie. Ensuite, le dossier de notre enfant va à l'ambassade française pour qu'il soit validé par la France, puis retour en France, et là, on peut aller le chercher. On attend son visa et on peut aller le chercher. Et en fait, les tribunaux éthiopiens ferment pour une sorte de pause estivale, enfin voilà, grosso modo en septembre, octobre, novembre. Enfin, ils ferment pendant quelques semaines, mais c'est jamais bien clair. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, c'était pas bien clair quand ils fermaient, quand ils réouvraient. On savait qu'il y avait une fermeture. Et donc, nous, l'association nous dit, comme c'est un tout petit bébé, on va quand même essayer de faire passer les dossiers le plus tôt possible et avant la fermeture des tribunaux. Parce que bah, un tout petit bébé, voilà, il peut lui arriver d'être malade en Éthiopie, un petit bébé malade, enfin voilà, c'était essayer de le faire passer le plus vite. Sauf que ben, les tribunaux ont fermé fin septembre et que son dossier n'était pas passé. Donc ça, ça a été assez dur à encaisser. Et les tribunaux ont réouvert mi-novembre. Donc on est allé le chercher, on est parti le chercher le 27 novembre. Alors qu'on avait espéré aller le chercher en septembre, mais c'est vrai que quand les tribunaux ont fermé, ça a été un peu la douche froide. Ouais. Après, cet enfant, on l'avait quelque part, mais il n'était pas avec nous, et ça, c'est un peu dur. Donc on est allé le chercher le fin novembre, on est resté sur place une petite semaine, et on est rentré avec...
Direction l'Éthiopie, là, ouais. Pour la première
ouais.
fois, finalement.
Ouais,
pour la première fois. Tout s'était fait à distance.
Oui, tout s'était fait à distance, en tout cas pour lui, pour notre deuxième enfant, ça s'est passé autrement, mais pour lui, oui, c'était comme ça que ça se passait. De toute façon, voilà, c'est comme ça que l'administratif se passait.
Et donc, arrivé en Éthiopie.
Alors là, ce qui est chouette, c'est qu'on part à plusieurs couples d'accord. de l'association qui ont adopté par la même association, parce qu'ils font passer tous les dossiers en même temps par pile de quelques dossiers. Donc, on part à plusieurs couples, et c'est super chouette parce que du coup, on crée des liens, on n'est pas seul, etc. Et ce qui est assez dingue, en fait, c'est qu'on a voyagé de nuit. Mm-hmm. Et donc, on arrive le matin en Éthiopie, il n'y a quasiment pas de décalage horaire, hein, il doit y avoir une heure ou deux. On arrive en Éthiopie le matin de bonne heure, on va à la pension où on était censé rester, nous, pendant une petite semaine, donc tous les couples. Et tout d'un coup, notre avocat nous dit, donc celui qui gérait les papiers en Éthiopie, nous dit en anglais, « Bon, ben maintenant, on va sortir et on va aller voir vos enfants. » Et tous les parents, on a eu ce même réflexe, alors qu'on attendait tous depuis des années, ça a été « Maintenant ?» Enfin, la panique, en fait, c'était le « maintenant, on y va, maintenant, c'est maintenant !» Et ouais, c'était maintenant. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est des moments super forts aussi, parce qu'on... C'est super fort, et en même temps, moi, je voulais pas lui faire peur à ce bébé, parce que je me disais, si je me mets à pleurer, à le prendre dans les bras, enfin, il me connaît pas, il sait pas qui je suis, il a jamais vu de blanc, enfin... Enfin, c'est quand même chamboulant, donc je voulais y aller le plus doucement possible... Et puis, bah, ça s'est super bien passé, quoi. Enfin, vraiment, ça s'est fait d'une façon hyper douce, hyper... Enfin, il était... il est toujours... Il est super cool. Enfin, voilà. Alors maintenant, quand je re-regarde les vidéos, je vois bien qu'il y avait quand même des petits regards où on sentait qu'il disait « Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, qui sait ? Qu'est-ce ouais. que... Voilà, il regardait les nounous qui s'occupaient de lui. Enfin, voilà. Mais, ouais, confiant. Enfin, ouais. ça va le faire. Ouais.
Et donc là, tu l'as pas récupéré à ce moment-là ?
En fait, bah, pendant 4-5 jours, nous, on allait le voir matin. Enfin, on passait toutes les demi-journées avec lui, mais il dormait à l'orphelinat. Et nous, on était à la pension, qui était à quelques centaines de mètres. Mais ce qui était... C'est un peu horrible de dire ça, hein, mais à partir du deuxième jour, il pleurait quand on partait. Mmh. Et alors, c'est un crève-cœur hein, sur le moment, mais je me disais, bah, on a déjà créé quelque chose, en fait. Donc... Mais oui, c'est sûr que sur le coup, à ce moment-là, j'avais qu'une hâte, c'était de repartir avec lui. En fait, c'est de le prendre, de partir. Voilà. Mmh. Sauf que bon, on a passé 5 nuits là-bas, on est rentré en France, donc on a repris l'avion dans l'autre sens et on est rentré chez nous.
Voilà. Et alors, comment ça s'est passé l'arrivée à la maison ?
Et ben, super bien.
En tant que parent ?
Et ben bien. Bien, vraiment.
Tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman ?
Oui. Oui, vraiment. Enfin, et mon mari, pareil. Enfin, alors évidemment, il y a quelques petites choses, mais enfin, on était. Ouais, je nous ai trouvés assez dégourdis, en fait. Voilà, on n'était pas là à se dire comment on fait, comment. Et puis Gabriel était. Enfin, nous a vraiment facilité le. Lui, il savait aussi comment on faisait quoi. Enfin, il avait que quelques mois, mais il soulevait les fesses quand on devait le changer. Il se mettait de lui-même en fait, voilà, pour faciliter, pour je sais pas, il était facile, hein. Il a tout de suite adoré le bain, alors que là-bas, ben, forcément, hein, ils sont baignés, mais beaucoup moins que chez nous, c'est plus un fond d'eau. Enfin, ouais, non, tout s'est passé, vraiment, il a tout de suite fait des nuits, mais c'est j'ai honte quand je le dis, parce que vraiment, non, c'était vraiment un bébé super facile, et... Enfin, je pense qu'il s'est senti bien. Nous, on se sentait bien avec lui. Et les choses se sont faites vraiment hyper naturellement, en fait.
Ouais. Et alors, au niveau administratif, comment ça se passe quand tu reviens
alors...
Pour chercher aussi une nounou, une crèche?
Oui, alors, pour Gabriel, j'étais encore salariée. Donc, quand on adopte, on a le droit à un congé d'adoption qui est 10 semaines, en fait. Donc, j'ai pris mes 10 semaines de congé d'adoption. Et puis, j'ai décidé, après, pendant les 6 mois suivants, de ne reprendre qu'à temps partiel. Et comme moi, je fais des... Enfin, à l'époque, j'étais salariée, je faisais des grosses journées. Mon temps partiel, je travaillais le samedi, là où mon mari ne travaillait pas, et je faisais une journée et demie dans la semaine pour faire mes 18 heures de mi-temps. Donc, on se débrouillait. En fait, mon mari avait posé tous ses RTT les jours où je travaillais. Donc, pendant les 10 semaines plus 6 mois après, il a été gardé que par nous.
D'accord.
Voilà. Mais il a bien fallu trouver une nourrice pour après. Donc, voilà. Mais du coup, on a mis ça. Voilà, on a trouvé une nourrice géniale dans notre village qui a gardé les deux suivants, d'ailleurs, après. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Mais par contre, effectivement, pour l'administratif, bah oui, après, faut les inscrire. Alors, faut faire tout le travail pour que l'adoption soit validée en France. Donc ça peut prendre quelques mois. Donc, faut refaire un dossier administratif. Il y a peu de risques que ça passe pas, mais voilà, c'est possible. Et puis, il faut faire les inscriptions. Eh ben, la sécu, machin... Alors, c'est déjà toujours compliqué, ce genre de papier, quand tout est dans les clous. Forcément, quand c'est... un peu des cas particuliers. J'ai quand même eu le cas, moi, pour ma deuxième, donc Lucie, où, en fait, elle a été inscrite à notre sécu, je crois, au bout de 4-5 mois. On a dû avancer plein de frais. En plus, elle avait eu pas mal d'examens de santé parce qu'elle avait des petits soucis. Et on me réclamait une attestation d'accouchement. Donc, je leur disais au téléphone, je ne peux pas, puisque je n'ai pas accouché. C'est une adoption. Vous avez un certificat d'adoption. Vous avez... Et en fait, ça ne rentrait pas dans leur case et mon dossier avait dû être mal classé. Voilà. Bon, après, ça, c'est des petites anecdotes administratives, mais c'est vrai que sur le coup, c'est toujours un peu compliqué. Il faut le faire, quoi. C'est sûr que l'adoption de la paperasse, on en mange, mais de façon inconsidérée, quoi.
Et au niveau de l'entourage, des personnes autour de vous, ouais. Comment ce choix était
Alors, ce choix, la toute première fois qu'on en a parlé, à la plupart, c'est très bien passé. Ils étaient contents pour nous. Enfin, voilà. Après, on a eu quelques petites réactions que j'ai compris a posteriori, c'était plus de l'inquiétude pour nous.
D'accord.
Que c'était ni du anti-adoption, ni du racisme, ni... c'était vraiment du « Ah, c'est compliqué, ils vont souffrir, voilà. » Et puis, en plus, c'est des choses, des petites réticences qui n'ont pas du tout duré avec le temps. Et voilà, et ça n'a pas empêché ces personnes-là de créer des super liens avec nos enfants. Donc, c'était vraiment de la réticence, de la peur pour nous au début. Voilà.
Donc, parents d'un premier enfant.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Vous décidez de remettre ça assez rapidement, tu m'as dit 6 mois.
Oui. 6 mois après, j'étais de nouveau au conseil général à demander mon dossier pour. Enfin, à une réunion de. La première réunion pour avoir le dossier pour demander un agrément. Parce qu'il faut recommencer tout à zéro en fait. Hein, il faut redemander un agrément. Et à tel point que les assistantes sociales ne comprenaient pas ce que je faisais là en fait. Elles m'ont demandé mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pour le dossier de... Non, on est pour un deuxième. Et en fait, ça a été assez mal perçu.
Ah oui, trop rapide.
Ouais. Alors, trop rapide, mais en même temps, dans notre département, il faut 2 ans pour avoir l'agrément. Donc, ben oui, on a commencé parce qu'on se disait que dans 2 ou 3 ans, on voudrait un autre enfant. C'était pas pour l'avoir tout de suite. Mais en fait, du coup, on s'est pris... L'enquête pour l'agrément du deuxième a été plus compliquée. Je trouve que... Alors après, ça dépend aussi sur qui on tombe. Hein. On a beaucoup mieux accroché avec les... avec l'assistante sociale du premier agrément que celle du deuxième. Mais voilà, c'était « Mais pourquoi vous ne laissez pas le temps à Gabriel d'arriver? Vous n'êtes pas satisfait de lui ?» Enfin, c'était vraiment chercher la petite bête. « Et pourquoi vous voulez forcément plusieurs enfants ?» Et pourquoi ?» Et pourquoi ? Il fallait qu'on se justifie de vouloir une fratrie et pas un seul enfant. Alors qu'il y a un moment, ça se justifie pas vraiment, c'est juste qu'on en a envie. Enfin, on peut donner des arguments, elle a nous donné des contre-arguments. Bah oui, mais bon, il y a un moment... Moi, je me rappelle lui avoir dit, moi, j'ai une petite sœur, je trouve que c'est une chance merveilleuse. Elle fait, oui, mais il y a des gens qui ont des frères et sœurs et qui n'aiment pas ça. Ouais, bah oui, mais... Voilà, enfin, c'était... Il y a un moment, il n'y a pas d'argument, c'est juste qu'on en avait envie. Donc, bon. Tout compte fait, on l'a eu, et voilà, et on a été de nouveau acceptés par notre association.
Oui, vous avez choisi le même pays, même association.
Ouais, oui, et puis on avait créé des liens tellement forts avec l'Éthiopie. Enfin, moi, c'est un pays que j'aime du coup profondément, parce que forcément, on s'y est attaché. Voilà, mais quand on a créé des liens forts et avec ce pays, et du coup, ça me semblait chouette de pouvoir adopter. C'est un peu comme quand on a eu un accouchement qui s'est bien passé, on a envie de retourner à la même maternité. C'est un peu le même principe, en fait. Hein, voilà. Et du coup, ben, rebelote. Et donc, on a eu... on a adopté Lucie, donc une petite fille, cette fois-ci, qui avait 10 mois quand elle est arrivée. Et c'était en 2013. Alors, pour Lucie, par contre, les choses avaient un peu changé. Et ça, ça a été pas très rigolo. C'est que, en fait, l'Éthiopie avait eu des problèmes avec certains parents, alors pas français, hein, a priori, qui avaient adopté. Donc, comme ça se faisait avant pour Gabriel, c'est-à-dire que le jugement éthiopien se passait sans les parents. On était juste représentés par un avocat. Et du coup, pour l'Éthiopie, ben, une fois que ce jugement était passé, cet enfant était, n'était plus le leur. Enfin, voilà, c'était, Et en fait, il y a eu certains parents, après coup, avec lesquels ça s'est mal passé, ou l'enfant, enfin, j'en sais rien, et ils ont dit, ben, finalement, grosso modo, finalement, on n'en veut plus. Donc, atroce, mais du coup, l'Éthiopie a imposé que les parents soient présents pour le jugement, qui se passe ben, en général 2-3 mois avant de pouvoir aller vraiment chercher l'enfant. Et ils imposaient qu'on voit l'enfant. Et en fait, moi, avec mon mari, quand on avait choisi l'Éthiopie, c'était un de nos critères, c'était que quand on pouvait y aller, on ramenait l'enfant. Je voulais pas faire des allers-retours, le voir, parce qu'en fait, pour les parents, c'est dur. Mais pour l'enfant, c'est juste atroce. C'est hyper déséquilibrant parce qu'il voit des gens qui s'occupent de lui, qui repartent. Et du coup, qu'est-ce qui lui fait croire que la énième fois où on vient le voir, là, on va vraiment rester avec lui et vraiment s'occuper de lui pour toute la vie? C'est quand même... C'est pas logique, en fait. On peut pas... Voilà. Et donc, on, dans l'absolu, on aurait voulu éviter ça, mais c'était indispensable. Donc, on y est allé au mois d'avril, si je me trompe pas.
Donc là, vous aviez attendu combien de temps?
Eh bien, Gabriel est arrivé en décembre 2009 et Lucie, on a été appelée en février 2013. Voilà, donc il y a, ouais, il y a quand même un peu plus de trois ans entre les deux. Donc, bon, c'est pas si proche que ça, quoi. Finalement, on avait devancé, enfin, on avait été vite, mais finalement, c'est pas si proche que ça pour avoir deux enfants d'écart, quoi. Et donc, on est appelé en février. Début février, on a appelé pour une petite fille. On dit OK tout de suite. Et donc là, on savait que là, les choses avaient changé. Et au mois d'avril, donc, on a dû aller la voir. La voir et la laisser. Moi, ça a été... je crois que c'est un des pires traumatismes de ma vie, en fait, de l'avoir laissée là-bas. Ça a été... Ouais. Donc après, du coup, on a couplé ça avec un voyage. On a fait un voyage en Éthiopie avec un autre couple. Et on est retourné là où nos enfants avaient été recueillis en premier. Donc on a, voilà, on est remonté sur plein de choses. On a retrouvé la policière qui s'est occupée de l'enquête pour essayer de savoir d'où venait Lucie. Enfin, elle nous a montré exactement où elle avait été trouvée. Enfin, on a eu des choses très précises. Et c'est là aussi qu'on a su que l'âge de Gabriel était un peu erroné. Il y avait une erreur de traduction, en fait, sur un dossier. Enfin, mais du coup, on est remonté. Enfin, voilà, on a fait un peu un petit travail d'enquête avec un guide pour essayer de retrouver tout ce qu'on pouvait retrouver du passé de nos enfants avant que nous, on les ait, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est une chance pour nous et pour eux. Enfin, voilà, si tout ce qu'on peut avoir à leur donner comme information, on les a. Après, le reste, effectivement, il y a plein de choses qu'on n'a pas et qui sont impossibles d'avoir. Mmh. Voilà, donc, Et donc, ce voyage en avril, et à la fin, donc, on fait une semaine de voyage dans toute l'Éthiopie parce qu'il ne venait pas forcément de la capitale. On retourne à la capitale, on voit Lucie deux demi-journées, en fait. Et
là, pareil, le lien s'est créé.
Ouais. Elle me tétait le bras, en fait. Enfin, ça a été tout de suite. Elle, ouais. Et pourtant, je voulais pas, parce que je me suis dit, il faut qu'elle me voie comme quelqu'un qui passe comme ça, jouer avec elle, un peu une bénévole, un peu. Voilà, mais c'était trop. Enfin, voilà, c'était trop. Ouais. Et puis moi, je me freinais, mais en même temps, enfin, on peut pas tricher avec un enfant, donc elle sentait bien qu'il y avait un rien, voilà. Mais on a dû. Donc, on a assisté au jugement, on a dit qu'on voulait bien de cette petite fille, que voilà, et on a dû repartir parce que, ben, après, il faut attendre le temps du visa, etc., et ça met plusieurs semaines. Et là, c'est vrai que, ben, rester sur place 3 mois, je me voyais pas, moi, laisser Gabriel en France, l'amener en Éthiopie à ce moment-là de sa vie, il avait 3 ans et demi, l'orphelinat où était Lucie était... il était très, 'fin, très bien dans le sens où... les gens qui étaient là-bas faisaient ce qu'ils pouvaient pour les enfants, mais avec les moyens... En fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants polyhandicapés, et c'était un peu la cour des miracles. Enfin, c'était... voilà, il y a des images que j'ai du mal, moi, à m'ôter de la tête, donc c'était pas possible d'y emmener un enfant de 3 ans et demi. Et donc, il a fallu laisser Lucie là-bas. Et ça, ça a été... Ouais, ça a été très, très, très dur. Vraiment, et j'en ai une espèce de... presque de culpabilité, alors qu'on a subi une situation administrative, hein, mais je... Ouais, ça a été très, très dur. Et d'ailleurs, entre le moment, au mois d'avril, et début juillet, où on est allé la chercher, elle n'a pas grossi, pas grandi, pas bougé, pas rien. Ouais. Enfin, elle a attendu qu'on revienne, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, alors qu'elle allait bien, elle n'avait pas de problème de... problèmes médicaux. Voilà, mais juste, voilà, elle n'a pas pris de poids, elle a attendu.
Et donc, vous avez finalement pu la récupérer ?
Oui, oui, on est allé la chercher, donc, au mois de juillet. Début juillet, donc finalement le dossier a été un peu plus court à passer à l'ambassade et ça c'était chouette.
Est-ce que vous aviez préparé Gabrielle à son arrivée ?
Oui, 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 oui. D'ailleurs, il y a plein de gens, on habite un petit village et en fait c'est marrant parce que nous c'est des choses qu'on a appris un peu a posteriori, mais lui il était en première année de maternelle et on lui avait imprimé la photo de sa sœur, la première photo qu'on a, et il s'était trimballé avec, il l'avait montré à tout le village en disant « c'est ma petite sœur ». Bon, sauf qu'il avait dit un autre prénom, parce que lui, il n'avait pas décidé qu'on l'appellerait Lucie, mais, bon. Mais il avait montré la photo à tout le monde, enfin c'était, il était très... Il l'attendait, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Ouais, ouais, c'est un chouette grand frère, ouais.
Comment s'est passée l'arrivée de Lucie, alors ?
Et bah très bien aussi. Mmh. Ouais. On a eu la chance d'avoir des enfants qui se sont très vite bien adaptés. Non, il n'y a pas eu de soucis particuliers. A posteriori, je me rends compte que c'est quand même... Enfin, je dis tout se passe bien, et oui, tout s'est très bien passé pour des enfants adoptés, en fait. Mais c'est des enfants... petits, en tout cas, et jusqu'à quelques années, ils sortaient jamais de notre périmètre, d'eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand ils ont commencé à marcher à quatre pattes, à marcher, on n'avait pas besoin de barrière à notre escalier parce que ils n'allaient pas y aller puisqu'on était dans le salon. Ils restaient là. Enfin, il y avait cette espèce de voilà. On leur a fait le coup une fois, donc c'est des enfants qui restent un peu gluons. Alors après, ils apprennent aussi à se détacher et c'est aussi notre rôle de leur apprendre qu'on peut partir et revenir et que. Voilà. Mais oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais, ouais. On n'a pas eu de gros soucis, on n'a pas eu de problèmes de grosse colère, d'enfants qui refusent de manger ou qui refusent de dormir ou qui ont des angoisses insurmontables. Il y a eu des angoisses, mais rien de... Voilà, ça s'est fait. Ça s'est bien fait.
Ouais. Et alors, ils ont grandi comme tous les enfants.
Voilà, hein, ils ont grandi comme tous les enfants. Ouais, ouais, ils sont allés à l'école comme tous les enfants. Ça s'est passé comme ça se passe pour tous les enfants, avec des plus, avec des moins, avec... voilà. Après, c'est vrai que c'est l'entrée à l'école où on commence un peu les réflexions sur... toi, t'as pas de vraie maman, enfin, voilà.
Au CP ?
Oh, bien avant. Le premier mois d'école pour mon fils, donc en petite section. Hein.
Ah oui ?
Ah, il est rentré de l'école et on était dans la voiture, il était derrière moi, et tout d'un coup, il me dit... Maman, t'es pas ma vraie maman. Maman, t'es pas ma vraie maman. Donc ça, je savais que je me le prendrais. Hein. C'est normal, hein. C'est, voilà. Parce qu'en fait, nous, on leur a toujours dit hein, qu'ils avaient été adoptés. Enfin, ça fait tellement partie de leur histoire que ils le savent depuis toujours, en fait. Enfin, après, ils comprennent ce qu'ils peuvent comprendre à leur âge, mais il n'y a jamais eu de grande annonce ou de voilà. Et en fait, bon, bah ça, j'ai voilà, on lui avait dit à l'école, en fait. Et ce qui m'avait le plus chagrinée, c'est que c'était donc des enfants de maternelle qui lui avaient dit ça. Hein, mais les enfants de maternelle, ils voient pas la différence de peau, en général. D'autant plus que Gabriel et Lucie sont très pâles de peau. Donc quand on voit que moi ou que mon mari avec, on peut croire qu'ils sont métis, que l'autre papa, enfin que l'autre parent est noir. Et ils peuvent vraiment faire métis. Et du coup, ce que par contre j'en avais compris, c'est que si des enfants... avait dit ça à mon fils, des enfants de son âge, c'est qu'ils l'avaient entendu à la maison. C'est que des adultes, en tout cas, l'avaient dit devant eux. Et ça m'avait un peu chagrinée. Mais bon, voilà, on peut pas éduquer tout le monde, hein, donc voilà. Et il y a une autre anecdote comme ça. Lucie devait avoir 2 ans et demi, je crois. Alors, on a eu la chance d'avoir des enfants qui ont parlé très vite et très bien et pu exprimer ce qu'ils avaient envie de dire très, très tôt. Donc, on avait des discussions, c'est bien. C'est beaucoup dire, mais en tout cas, ils pouvaient verbaliser des choses. Et une fois, j'étais aux urgences avec Lucie parce qu'elle faisait un problème d'allergie de peau. Donc, on a couru aux urgences. Voilà. Et devant l'interne me dit « Est-ce qu'il y a des allergies dans votre famille ?» Et là, je dis « Oui, mais Lucie est adoptée, donc je n'ai pas ses antécédents familiaux. » Et là, Lucie, qui était assise devant moi sur le brancard, soulève mon t-shirt et fait « Non, moi bébé, là !» en montrant mon ventre. Mmh. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, Lucie voulait dire à tout le monde qu'elle avait été dans mon ventre. Mmh. Et donc, on a eu pas mal de discussions avec ça. Souvent, elle me disait « Est-ce que je peux dire à l'école que j'étais dans ton ventre ?» Et en fait, on a fini... Alors, je sais pas si c'est ce qui est conseillé. Hein. Je dis pas que c'est la solution magique, etc. Mais nous, c'est ce qui l'a aidé. Je lui dis « Est-ce que tu sais, si c'est vrai ?» Elle dit « Non, j'avais une autre maman en Éthiopie. J'étais dans le ventre d'une autre maman en Éthiopie. » Je lui dis « Oui, toi, tu le sais. Donc, tu dis ce que tu veux à l'école. » Voilà. Ça, c'est, enfin, voilà. Et en même temps, pour tout le monde dans notre village, c'est clair que c'est des enfants adoptés. Et il n'y a pas de secret à avoir. Y a pas de... Ouais. Voilà. Mais Lucie a eu un passage où elle avait besoin de dire à l'école que « Non, non, elle était dans mon ventre avant. Mmh. » Voilà. Bon.
Et quand ton fils te dit justement qu'on lui dit qu'il n'a pas une vraie maman, qu'est-ce que tu lui réponds ?
Eh bien, qu'une vraie maman, c'est quelqu'un qui s'occupe de son enfant. Je lui dis, c'est quoi une maman ? Je lui ai fait comprendre, avec du haut de ses 3 ans à l'époque, ce qu'il pouvait comprendre, mais je lui ai dit, ils disent ça, les gens disent ça, certaines personnes disent ça, parce que je ne suis pas ta maman du ventre. Voilà, je ne t'ai pas portée, je ne suis pas ta maman du ventre. Mais... je suis ta maman pour toute la vie maintenant, je m'occupe de toi pour toute la vie, donc je suis ta maman, c'est ça une maman. Enfin, pour lui, c'était clair, en fait. Ouais. Il n'y avait pas de... Forcément que ça la chamboule un petit peu, mais je crois pas que... Ouais, je pense que ça... À ce moment-là, c'était ce qu'il avait besoin d'entendre. Mmh. Que ça remettait pas notre lien en cause.
Et ça s'est intensifié, du coup, après, au fur et à mesure des années ?
Non, 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 non. En grandissant, il y a toujours plus ou moins... Alors, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, habitant dans un petit village, en fait, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc, quand les choses sont mises au clair une fois...
Oui.
Voilà, c'est assez facile à vivre. En CE2 ou en CE1... Non, en CE1, Gabriel, dans sa classe, ils avaient travaillé sur l'arbre généalogique, les parents, etc. Et donc, je lui avais demandé s'il voulait faire apparaître... dans son arbre généalogique, sa famille éthiopienne qu'on ne connaît pas, mais il a forcément un papa et une maman en Éthiopie, donc même si on ne connaît pas ni leur prénom ni leur photo, on pouvait les faire apparaître. Il m'a dit non, non, je ne veux pas. Par contre, il a voulu à ce moment-là faire un espèce de petit exposé sur son histoire à la classe. Donc on avait mis des photos d'Éthiopie, j'avais écrit moi, mais c'était ses mots, hein, vraiment, et il a eu besoin de dire que, voilà, en Éthiopie, ses parents n'avaient pas pu s'occuper de lui, que maintenant, nous, on était son papa et sa maman pour toute la vie. Il avait quelques photos d'Éthiopie pour montrer que c'était un beau pays. Et en fait, il avait conclu en disant, voilà, maintenant, vous savez que ce sont mes vrais parents, ne me posez plus de questions. Mm. Parce que, forcément, hein, les enfants, même sans penser à mal, il y a toujours... voilà. Et moi, j'avais été... Enfin, je m'étais dit, à ce moment-là, je me disais, bon, bah, c'est bon, qu'on a réussi quelque chose quand même, quoi. Enfin, ça, c'est... Voilà, surtout Gabriel qui est assez timide, très doux, très timide, plutôt effacé. Se poser comme ça devant sa classe, je m'étais dit, bon, c'est pas mal. Voilà, on avait été super, super fiers de lui, quoi.
Est-ce qu'on propose pas de suivi psychologique à la
Si, alors tu as une sorte de petit suivi par le conseil général. Nous, on est suivi après par l'association.
Ok.
Parce que tous les ans, tu es censé envoyer un espèce de compte-rendu de comment l'enfant évolue en Éthiopie.
D'accord.
Voilà. Après, c'est un compte-rendu écrit, voilà, pour donner des petites... Voilà, qui sache ce que deviennent un peu les enfants, et puis que, voilà. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Mm-hmm. Maintenant, en France, comme suivi psychologique, après, oui, je pense que ponctuellement, ça peut être important, et Lucie en a eu besoin pendant un petit moment pour gérer certains points un peu difficiles. Voilà. Mais je pense que... En fait, nous, on est ouverts à tout ce qui peut les aider. Voilà, après, on fait pas... Il n'y a rien d'obligatoire en France, mais je pense qu'il faut se fermer aucune porte et essayer de les aider au maximum, de faire tout ce qu'on peut pour eux, quoi.
Et donc, ils vont en Éthiopie de temps en temps ? Ils y sont déjà allés ?
Non. Non.
D'accord.
Non, parce que ils n'ont pas envie. Donc, okay. Déjà, c'est un voyage qu'on prévoit, clairement, mais ils seront, je pense, plus grands. Parce que l'Éthiopie, c'est un pays magnifique, mais c'est aussi un pays très très pauvre. Il faut aussi pouvoir se confronter à certaines choses. Et puis, j'ai pas envie d'y aller et de faire du Club Med. Enfin, il n'y a pas de Club Med en Éthiopie, mais j'ai pas envie de leur montrer que... Enfin, si on y va, on y va.
Oui.
On voit vraiment. Et je pense que c'est... Et j'espère que c'est un voyage qu'on fera en famille dans quelques années, mais je pense qu'il faut être plus grand, plus aguerri. Notre association propose des camps pour les jeunes adultes, ados, grands, où il retourne en Éthiopie pendant 3 semaines en groupe.
Immersion.
Ouais. Où en général, parallèlement à ça, ils construisent. Enfin, il y a un projet. Il y a un projet humanitaire, construction d'un puits, d'une école, ou un machin comme ça, et où ils voient un peu l'Éthiopie. Certains retrouvent de la famille qui est là-bas, si c'est possible de les rencontrer. Mais c'est des choses qui sont envisageables, mais pour l'instant, Gabriel n'a pas envie, mon aîné, et puis je pense que clairement, c'est pas quelque chose qu'on force à faire, et je pense que même s'il en avait envie, pour l'instant, ça serait un peu tôt, peut-être.
Ouais. Et alors, après, ces deux...
Ouais.
Beaux enfants,
ouais.
Ces
ouais.
deux adoptions,
ouais.
finalement.
Et ben, ce qui est dingue, c'est que moi, je voulais un troisième.
Ouais.
Enfin, je me sentais vraiment pas complète, en fait. J'avais toujours j'étais très heureuse avec mes deux enfants et on serait restés tous les quatre. On n'était pas malheureux du tout, hein, loin de là, mais j'avais ce... Je me sentais pas complète, ouais, c'est ça. C'était pas fini, enfin, j'avais encore envie. Et du coup, on avait commencé un troisième agrément.
D'accord.
Tout au début, hein, enfin tout au... On s'était laissé beaucoup plus de temps par contre, hein, pour passer le temps un petit peu, mais comme on était encore relativement jeune, en tout cas dans le monde de l'adoption, c'était possible et envisageable. Du coup, on se renseignait aussi sur quel type d'enfant, et sur ce qui était possible et envisageable, parce que déjà, quand on en a adopté deux, on nous oriente plus vers des enfants à particularité, donc soit des maladies chroniques, soit des choses particulières. Voilà. Et donc, on réfléchissait avec mon mari à ce qu'on était prêt à supporter et pas.
Mm-hmm.
Parce que, des choses qui étaient envisageables et d'autres pas. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à tout ça parce que ça peut avoir des répercussions lourdes sur nous, mais sur la famille, sur plein de choses. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à tout ça. On en était à ce stade-là. Et en 2016, l'Éthiopie s'est fermée à l'adoption. Pour plusieurs années. Mais on savait que ça serait longtemps. C'était pas un an ou deux. Donc,
pour quelle raison ?
Des raisons diplomatiques et clairement, moi, mon avis, c'est que quand un pays fait beaucoup d'adoptions, enfin d'enfants, de leurs enfants qui vont vers l'étranger à l'adoption, c'est s'afficher entre guillemets comme un pays pauvre et qu'il y a un moment diplomatiquement, ils en ont plus envie. Donc l'Éthiopie a voulu dire non, nous pouvons nous occuper de nos enfants qui n'ont pas de parents. Sur le papier, c'est génial, hein. Enfin, c'est très très bien. Dans les faits, je pense que c'est compliqué, mais toujours est-il qu'ils se sont fermés à l'adoption.
D'accord.
Et moi, ça a été un deuil assez terrible.
Oui, parce que tu voulais pas d'autres pays.
À ce moment-là, ça me semblait inenvisageable. Mmh. Bon, sauf que, mise devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, j'ai cherché, hein, j'ai regardé, quels autres pays étaient envisageables. Donc, le problème, c'est que quand on a déjà deux enfants... Adopté ou pas adopté, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui refusent de nous confier un enfant. Ce que je peux concevoir, évidemment, que quelque part, un couple qui n'a pas d'enfant, qui soit prioritaire face à un couple qui a déjà deux enfants, je le conçois, vraiment,
oui.
Je le comprends. Il n'y a aucun problème là-dessus, je trouve ça presque normal, en fait. Et puis, il y a d'autres pays où, il faut parler espagnol. Alors, mon mari et moi, on ne parle pas du tout espagnol, mais à la rigueur, je me disais, ça prend des cours. Je m'en fiche, je prends des cours. Mais il y a beaucoup de pays, surtout d'Amérique latine, en fait, où il faut rester sur place 6 mois. Mon mari et moi, on est chef d'entreprise, donc c'est compliqué. On avait deux enfants scolarisés. Je ne voyais pas comment mettre ça. Dans les faits, ça me semblait insurmontable.
Oui.
Et donc, on en était à ce stade-là, et je me disais, il faut faire le deuil de ce troisième, c'est pas grave, on est heureux tous les deux, c'est pas grave. On était bien en plus, hein, c'était pas... j'arrivais à... On est très très occupés, c'était... Et puis, un jour, quelqu'un qui en parle devant moi, me parle d'un centre de fécondation in vitro qui s'est ouvert à un quart d'heure de chez nous, à Meaux. Alors que évidemment, là, maintenant, en habitant en Seine-et-Marne, avec deux enfants, avec mon entreprise, retourner sur Paris pour faire des FIV, c'est impossible.
Mmh.
Enfin, je ne peux pas m'absenter, je ne peux pas, un jour sur deux, perdre plus d'une demi-journée pour aller faire les examens. Enfin, ça, c'était... Et là, je me dis, non, je suis folle. Non, j'avais dit plus jamais, non, j'avais dit plus jamais, et puis... Et puis, j'arrêtais pas d'y penser, en fait. Alors que je m'étais complètement fermée. Enfin, pour moi, c'était fini. Je serais pas enceinte, je porterais pas d'enfant. Enfin, j'avais vraiment... Pour moi, c'était inenvisageable encore quelques années avant. Enfin, quelques mois avant. Et, Et un jour, je dis à mon mari, j'arrive pas à faire le deuil de ce troisième enfant, tu vas me prendre pour une folle, qu'est-ce que tu dirais si on refaisait des fives? Et là, du tac au tac, il me dit, bah oui, pourquoi pas. Voilà. Donc il nous restait, on avait déjà fait deux fives en 2006-2007, donc oui. Il nous en restait deux possibles. Hein. Donc on s'est présenté au centre, dans ce centre de PMA à Meaux, qui ont été, mais alors, ils sont géniaux. Enfin, vraiment, hein, sur Paris, on était suivis dans un grand, grand centre, en tout cas en termes de nombre de cas qui passaient et de nombre d'intervenants, de médecins, de machins. Donc c'était sûrement à la pointe de... Voilà. Mais par contre, on était vraiment pas connus. Enfin, on était... Voilà. Et là, mais c'était d'une... Enfin, ça s'est passé, mais tellement facilement. Enfin, j'ai trouvé ça... Moi, j'allais au rendez-vous détendu, c'était agréable. Alors, évidemment, c'est jamais agréable d'avoir des échographies et des machins et des piqûres et des machins. Mais j'ai trouvé ça facile. Et en plus, je le faisais... Enfin, nous le faisions avec mon mari en se disant « Ça va très certainement ne pas marcher. » Parce qu'à 39 ans, quand on fait des fives, j'avais 39 ans à l'époque, les statistiques sont pas super bonnes. Mais c'était de me dire « Si ça marche pas... » On fermera cette histoire-là et on passera à autre chose. Mais je ne pouvais pas me dire, il nous reste cette possibilité-là et pas être allée jusqu'au bout. C'était juste aller au bout du truc, quoi. Et donc, on fait une première FIV. Je tombe enceinte, mais je fais... Donc, première fois de ma vie où je tombe enceinte, hein, mais je fais une fausse couche précoce assez tôt. Donc, voilà. Bon. Et quelques mois après, transplantation de l'embryon qui nous restait. Et paf, ça marche. Ouais.
Alors là, comment vous réagissez ?
Sur le coup, très content, moi un peu stressée, j'attendais quand même les premières échographies, ouais. Sûre qu'il y ait vraiment un petit cœur qui batte, etc. On ne voulait pas en parler à nos aînés. Les aînés ne savaient pas qu'on faisait des fécondations in vitro. Mmh. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais en fait, avant de nous lancer vraiment dans les fécondations in vitro, mon aîné, donc qui avait à l'époque 8-9 ans, je pense, me dit un jour, maman, j'aimerais bien encore un petit frère, une petite sœur. Je lui dis, bah oui, mais mon chéri, je lui dis, hein, l'Éthiopie s'est fermée à l'adoption, adopter pour nous maintenant c'est compliqué, je vois pas, voilà. Et là, il me sort du tac au tac, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, bah pourquoi tu le ferais pas dans ton ventre ? Et là, je le regarde, je lui dis, mais ça te dérangerait pas toi ? Il fait, bah non, pourquoi ça me dérangerait ? Mmh. Et je pense que ça a été le déclic de me dire, oui, en fait, où est le problème ? Mmh. Voilà. Il y a eu des petites choses à mettre au clair avec nos deux aînés, évidemment, hein, mais. Mais vraiment, je me suis dit, mais oui, en fait, rien n'empêche rien, en fait. Tout est possible si on met derrière les bonnes intentions, il n'y a pas de... Je n'aurais pas eu de problème. Ouais. Donc voilà, donc cette fécondation in vitro qui marche. Donc évidemment, au début, on voulait pas... Les enfants ne savaient pas qu'on faisait les fécondations in vitro. A posteriori, ils avaient quand même senti que quelque chose. Mmh. Voilà, bon. Et d'ailleurs, on leur a dit, moi je voulais attendre, on voulait attendre les 3 mois révolus de grossesse pour pouvoir leur dire, passer le premier trimestre pour être un peu sûr que je fasse pas de fausse couche, parce que bon, comme on l'avait déjà vécu une première fois, on leur en avait pas parlé, et tant mieux, parce que bon, c'est pas facile à encaisser pour un enfant. Je voulais attendre les 3 mois de grossesse, et en fait, ma fille n'arrêtait pas de me ramener de l'école, des livres, de la bibliothèque, des livres « Maman attend un bébé, comment on fait les bébés ?» Et ça faisait deux ou trois livres d'affilée qu'elle me ramenait. Je pense qu'en fait, elle l'avait senti d'une façon ou d'une autre. Et un jour, à table, je sais plus comment est la situation, enfin, Lucie me dit « Mais maman, ça serait bien que tu fasses un bébé dans ton ventre !» Et là, je devais être un peu plus de 2 mois de grossesse et je ne pouvais pas ne pas leur dire, quoi. Oui. Donc, on était tous les 4 à table et je regarde mon mari et on s'est lancé. Donc, on leur a dit, en fait, il y a un bébé qui pousse dans mon ventre. Et là, ils ont été... Alors, il y a eu une première... Ils se sont mis à pleurer tous les deux, en fait.
Ah.
Ouais, ils se sont mis à pleurer. Gabriel est parti pleurer aux toilettes, mais de pudeur, en fait. Et je suis allée le chercher. Je dis, mais pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui... Et en fait, il m'a dit, maman, si c'est une blague, c'est pas drôle. Hein. Mm-hmm. Je dis, non, c'est pas une blague. Il y a vraiment un bébé qui pousse dans mon ventre. Et donc, ils étaient super contents. Enfin, vraiment, ça a été... Ouais, on l'a attendu tous les 4. Ça, mm-hmm. ça, c'est chouette aussi d'avoir une fratrie espacée en temps. Parce que du coup, les deux grands ont été vraiment super... impliqué dans la grossesse, dans l'attente du bébé, et ça c'était vraiment vraiment chouette.
Ouais. Comment elle s'est passée cette première grossesse alors ? 3 enfants, première grossesse.
Ouais, ça c'était rigolo ça. Comment ça s'est passé ? J'étais c'était un peu bizarre, il y a eu plein de choses différentes. Au tout début, Je me disais, bon, restons calmes, on n'est pas sûr. Et puis, les premières échographies qu'on a assez vite, hein, quand on fait une FIV, au bout de 2-3 semaines, on a les premières échographies. Il y avait un petit cœur qui battait, ça poussait. Donc, bon, voilà, c'était une grossesse normale. Donc, bon, après, le premier trimestre est toujours voilà, mais ça commençait. Et quand ça a commencé à être un petit peu sûr, j'ai eu un moment de doute à me dire, mais moi, je sais pas faire les enfants comme ça. Est-ce que je vais réussir à l'aimer ? Le truc, c'est quand même un peu débile, hein, mais moi, je fais les choses un peu à l'envers, mais c'était... Est-ce que je vais réussir à l'aimer ? Et en fait, je m'étais dit, un peu torturée quand même, je me suis dit, je vais le porter comme un petit soldat. Il faut le porter, il faut tout bien faire pour la grossesse. Et quand je vais accoucher, eh ben, je vais l'adopter comme les autres. Bon, sauf qu'en fait, très vite, j'étais hyper attachée à lui. Enfin, j'étais gaga de ce bébé qui était dans mon ventre. Hein, donc, j'ai pas eu besoin de l'adopter à la naissance, je l'avais déjà adopté avant, en fait. Mais oui, c'était un peu... c'était moi je découvrais un truc alors que j'avais déjà des enfants quoi, enfin, c'était un peu particulier. Après j'ai été malade tout le long de la grossesse, j'ai vomi du premier jour à 2 jours après l'accouchement, donc ça a été ouais, ça n'a pas été rigolo, mais bon du coup fatiguée et tout, mais bon sinon la grossesse j'ai dû arrêter, je voulais m'arrêter de travailler à 8 mois et j'ai dû m'arrêter à 7 mois parce que j'avais trop de contractions et que j'étais vraiment vraiment fatiguée avec ces vomissements, donc voilà, mais sinon ça s'est globalement bien passé. Ouais.
Et donc l'arrivée du bébé biologique cette
fois-ci. Ouais, ben fou dingue, enfin c'est ouais non c'est c'est pas plus fort que quand j'ai rencontré mes deux aînés. Moi, je l'ai vécu aussi comme aussi une expérience personnelle. Mmh. Accoucher d'un bébé, c'est quand même en fait pas rien. Donc, je l'ai vraiment vécu. Cette expérience-là, j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai adoré accoucher. C'était, j'ai vécu ce truc-là comme un... Enfin, c'était... Ouais, puis c'est un truc que moi, j'avais rayé de mon possible, on va dire. Donc, j'ai adoré ça. La rencontre, elle a été... ouais, génial, enfin, on a tout de suite été hyper attachés tous les uns aux autres. Après, oui, évidemment, c'était un bébé de 0 jour, donc on a moins d'interactions avec un bébé de 0 jour qu'avec un bébé qu'on a à 6 mois ou à 10 mois, comme j'avais mes deux grands. Mais non, non, ça s'est fait hyper naturellement. Enfin, tout s'est posé. On a eu 3 enfants hyper faciles, en fait.
Ouais.
Ouais, ouais. Ils ont tous les 3 dormi très tôt. Enfin, franchement... Non, non, on est tout se passe de façon assez, assez calme, enfin aussi calme que ça peut être avec 3 enfants. Hein, mais, voilà.
Et comment les grands ont accueilli leur petit frère alors ?
Eh ben, bien, bien, bien. Pendant ma grossesse, Gabriel a juste eu assez tôt cette question de me demander, mais une des premières questions qu'ils nous ont posées, c'est quand même de quelle couleur il sera le bébé ? Bah blanc en fait, parce que papa et maman sont blancs, donc là c'est un bébé biologique, donc ah bah oui évidemment, mais quand même il a fallu qu'on leur dise. Et Gabriel m'a vite demandé, mais alors ce bébé il va vous ressembler à papa et toi, mais qu'est-ce qu'il va avoir de moi? Et là je lui ai dit, bah oui effectivement il va pas avoir tes cheveux, il va pas avoir ta peau, mais il va avoir plein de choses de toi. Tu vas lui apprendre plein de choses, tu vas lui apprendre à des chansons, tu vas lui apprendre des bêtises, tu vas... Voilà, et puis moi je lui ai dit, tu vois, Gabriel, toi, biologiquement, t'es pas le fils de papa, mais t'as le même sourire, vous avez le même sourire, vous avez le même regard, enfin, il y a plein de choses, il n'y a pas que ça. Et une fois ça passé, il a été hyper, hyper attaché déjà au bébé qui était dans mon ventre, quoi. Ça a été... Et l'arrivée, bah, je pense que comme dans toute fratrie... Ils veulent s'en occuper, et ils excitent un peu, et ils s'en occupent, et en même temps, quand nous, on a besoin que 5 minutes, le temps qu'on lance une plâtrée de pâtes, qu'ils s'occupent du petit, bah, c'est à ce moment-là qu'ils veulent pas, enfin voilà, comme, comme partout, voilà, non, non, mais ça se passe de façon très, très sereine, parce que je pense que dans notre famille, les choses sont posées de façon assez... Ouais, on a des fondations assez... assez fortes, donc sortie de là... Si les choses leur sont dites clairement, sans que nous, il y ait de doute,
ouais.
Il n'y a pas de recherche particulière derrière. Quoi.
Il y a d'autres questions en grandissant qu'ils peuvent te poser par rapport à leur petit frère ou...
Non, non, là, ce qui fait rire beaucoup notre aîné, c'est l'écart d'âge, parce qu'ils ont 10 ans d'écart, du coup. Mmh. Donc, c'est bah, quand moi j'aurai 20 ans, il en aura 10. Donc, nous on le taquine en disant bah oui, puis nous on partira en vacances et tu garderas ton petit frère. Voilà, c'est la blague entre nous. Voilà. Mais non, parce que moi je leur demande, hein, ça m'est arrivé de leur demander, ça vous fait bizarre? Non, c'est notre frère. Enfin, il n'y a pas de.
Oui, vous êtes vachement dans la communication,
oui,
tout le temps.
Oui, oui.
C'est important.
Ouais. Ouais, ouais, c'est important. C'est important. Et en même temps, quand on adopte des enfants, c'est juste des enfants, quoi. Enfin, quoi, au quotidien, on est juste des parents avec des enfants. Hein. Faut pas non plus dramatiser le truc ou chercher toujours... des fois, ils sont pénibles, des fois, ils sont chouettes. Des fois, on a des soucis qu'ont tous les parents. Après, c'est sûr que... Oui, il y a des petites choses particulières que peut-être d'autres parents vont pas penser ou vont pas envisager, que nous c'est inenvisageable, quoi. Enfin, quand Gabriel et Lucie étaient très très jeunes, alors c'est bizarre parce que quand on adopte, dans le monde de l'adoption, très souvent la maman arrête de bosser, ou en tout cas très longtemps, parce qu'effectivement c'est des enfants avec des gros besoins qui ont besoin de se poser, donc les faire garder par une tierce personne ou les mettre en crèche ou à l'école tout de suite, c'est juste pas envisageable. Donc du coup très souvent la maman s'arrête de travailler pour un temps ou pour toujours, voilà, peu importe. Mais et moi j'ai pas pu le faire pour Lucie parce que j'étais passée à mon compte entre les deux adoptions et que voilà. Du coup mon mari, c'est lui qui a pris le congé d'adoption. Enfin, c'est dans le milieu de l'adoption, c'est souvent la maman qui s'arrête de travailler, et donc pour les parents adoptants c'est un peu la norme. Et à côté de ça, dans le monde normal, pourquoi tu le laisses pas en week-end chez tes parents? Parce que c'est pas encore possible. Enfin, c'est pour l'instant, c'est pas possible. Là, Joseph, donc il y a un an, il est resté quelques jours avec mon papa pendant qu'on est parti en week-end avec mon mari. Ça n'aurait pas été possible au même âge avec son grand frère ou sa grande sœur, parce que c'était pas possible. Ils étaient pas prêts, parce que on leur doit bien ça, de rester tant qu'ils le peuvent avec eux. Et du coup, on est toujours un peu entre deux mondes et à pas toujours être compris.
Oui.
Ouais. C'est pas toujours facile. Après, on a des amis intelligents qui comprennent quand on leur dit, mais voilà, c'est pas toujours. Moi, ça m'avait marqué. Une fois, on était allé dans un restaurant buffet avec une amie, et elle venait avec son fils qui devait avoir un an et demi, et elle l'a posé sur la chaise haute et elle est partie servir au buffet, et moi je suis restée devant son fils, et à l'époque je n'avais que des enfants adoptés, j'avais pas Joseph, et effectivement je me suis dit, mais oh, elle le laisse, et effectivement ça avec un enfant adopté, mais il peut se mettre dans un moment d'angoisse terrible, ouais. Parce que endroit pas connu, maman part, je suis avec des gens que je connais vaguement, enfin. Et ça m'avait, et son fils l'avait très bien vécu, hein, c'était pas un problème, mais moi, la même chose, c'était pas envisageable avec les miens, pas du tout. Et ça, c'est des petites choses, mais effectivement, quand on se pose pas la question en amont, ben, on peut pas l'imaginer, quoi. Des choses.
Et au niveau de la société, alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un regard particulier sur l'adoption? Comment tu le vis, toi?
Moi, je le vis sans me poser de questions, en fait, par rapport aux autres. Après, comme je te disais tout à l'heure, comme Gabriel et Lucie sont vraiment clairs de peau, ils font métis. Donc c'est vrai que maintenant, surtout quand on nous voit et que maintenant ils sont grands, on imagine qu'on est une famille recomposée. Donc, enfin, je pense que c'est ce que les gens imaginent, j'en sais rien, mais je pense, donc on a moins de regard. Après, c'est sûr que quand on était avec un bébé noir dans une poussette et deux parents blancs derrière, oui, on avait beaucoup de regards. Mais des regards... Moi, ça m'est arrivé quand les regards étaient trop insistants de tirer la langue. Juste parce qu'il y a un moment, c'est... Voilà. Mais la plupart du temps, on s'en rend pas compte, en fait. Voilà, Après, on a toujours, on a parfois quelques petites réflexions, mais mine de rien, pas tant que ça. Je pense que les gens n'osent même pas, en fait. Enfin, voilà.
Et du coup, le petit dernier aussi, il va falloir lui expliquer toute cette histoire.
Oui, je pense que, comme avec les deux grands, où en fait, on a toujours dit les choses très simplement. À la maison, on a des livres sur comment on fait les bébés. Moi, j'ai été adoptée. On a des livres sur l'Éthiopie, donc... c'est une bonne façon d'en parler. Si un jour on lit un livre sur comment on fait les bébés, je dirais, oui, toi t'étais dans mon ventre. Par contre, Gabriel et Lucie, ils étaient dans le ventre d'une autre maman, mais en Éthiopie. Et, en fait, c'est pas compliqué, en fait. Il n'y a rien de... Moi, ça me semble tellement naturel que je vois même pas... Effectivement, il faudra lui dire, oui, il faudra que l'information passe de façon naturelle, parce que... C'est un peu bizarre d'avoir deux grands frères, enfin un grand frère et une grande sœur noire alors que nous on est blancs. Mais dans les faits, pour moi, ça pose pas de problème, en fait.
Et on n'est pas très au fait de tout ce qui se passe pour l'adoption quand on se plonge pas dedans, en fait.
Ah non. Non, ça c'est...
On voit les stars qui adoptent
ouais,
en 15
ouais,
jours.
Non, mais c'est l'image de l'adoption qui est quand même soit très très idyllique, genre... ah bon, il faut attendre. Ah bon, vous avez des frais à payer. Parce que ça aussi, hein, c'est quand même assez lourd. Ah bon, vous avez des enquêtes. Ah bon, moi, je pensais que c'était bah, comme du bénévolat. Alors ça, voilà. Et puis, de l'autre côté, on a... oh là là, les enfants adoptés, ils tournent tous mal. Oh, l'adolescence. Oh là là. Voilà, c'est un peu les deux...
clichés.
Ouais, les deux clichés. Et je pense que ben, faut naviguer un peu au milieu. Et faire, faire comme on peut. Et que... ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oui, les gens, ils connaissent... c'est ça qui est fou, parce que déjà, quand on est dans le monde de la PMA, de la procréation médicalement assistée, déjà, les gens, ils connaissent pas grand-chose. Mais le parcours de l'adoption, c'est juste... Moi, quand je suis revenue au FIV après, j'ai trouvé ça mais tellement... On me prenait par la main, on m'appelait pour me dire « faut faire telle injection ce soir, telle dose ». Alors que dans le monde de l'adoption, c'est à toi de penser « ah, alors, il faudra qu'on ait tel papier qui soit valable 3 mois, mais pas moins, pas plus, donc il faut qu'on estime qu'on aura le visa ». Enfin, c'est des choses... même si nous, on s'est entouré de parents adoptants, voilà, mais on est quand même un peu les bêtes curieuses, quoi. Ouais. Et puis même sur les réseaux sociaux, voilà, ça reste... On parle beaucoup de maternité, et c'est génial, parce qu'effectivement, ça reste une maternité comme une autre, quelque part. Hein. On devient maman, on ne l'était pas avant, c'est quand même pas complètement normal, quelque Merci. Part. Mais parler d'adoption, d'ailleurs, c'est génial que tu en parles, parce que, ben, mine de rien, on n'en parle pas... Pas beaucoup, quoi.
Tu échanges avec des gens sur les réseaux sociaux à ce sujet ?
Non.
Des parents qui ont adopté ?
Très peu.
Très peu.
Très peu, parce que bah, on n'est pas beaucoup, en fait. Ouais. Très, très peu. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment... voilà. Ou alors, de temps en temps, on va me demander un renseignement, mais en fait, c'est des gens qui juste se sont dit « Ah, bah tiens, oui, ça serait bien que... » Alors, peut-être que leurs choses vont évoluer, que ça va aboutir, mais en fait, ça reste... Ou qui ont juste comme ça une vague idée et qui savent pas du tout et qui demandent comment on fait, quoi. Enfin, ouais. Donc, ouais, non, c'est... Ouais, c'est un peu... C'est particulier. Et après, au quotidien... je suis maman de 3 enfants et ça, je suis comme toutes les autres mamans, quoi. Il n'y a pas de... Voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça a tout changé et rien changé, en fait. Ça change plein de choses, dans le sens où, bah ouais, toutes nos priorités changent, etc. Et en même temps, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit « la maternité m'a changé ». Non, on reste... Enfin, si t'aimais les chaussures, tu continues à aimer les chaussures, même si ça ne devient plus ta priorité. Enfin, voilà. C'est de là que vient mon pseudo, d'ailleurs, la même en pas pareil, parce que, bah ouais, je suis devenue maman, mais je suis plus pareille, mais en même temps, au fond, on est... Enfin, on garde notre caractère, on garde... Après, on grandit, on voit les choses autrement, le moi n'est plus la priorité, clairement, mais moi, je trouve que c'est plus une façon de se... Pour moi, en tout cas, je dis pas que c'est le cas pour toutes les mères, hein, loin de là, enfin, et pour toutes les femmes, mais moi, ça a été, je suis devenue vraiment moi avec mes enfants, en fait. Ça m'a potentialisée. J'ai plein de choses qu'avant, j'aurais dit, ah, non, c'est compliqué, dur, machin, et maintenant, bah, faut le faire, donc... Et on fait et on peut.
Est-ce qu'on t'a déjà posé la question horrible de savoir si t'avais regretté... d'avoir adopté alors finalement t'as eu un enfant naturel?
Non, je pense, je le enfin ouais, ah quand même, oh bah enfin moi clairement oh quelle chance quand je suis tombée enceinte, oh quelle chance, moi j'étais juste contente d'attendre un troisième enfant, en fait. J'ai été contente d'un point de vue purement individuel de savoir ce que c'était qu'une grossesse et qu'un accouchement et qu'un allaitement,
mais un point de vue scientifique,
ouais, point de vue scientifique, voilà, qu'est-ce que ça fait, quoi. Mais en soi, ouais, voilà, mais en soi, si j'avais eu le choix vraiment, hein, on aurait adopté un troisième enfant, en fait. Ouais. Si on nous avait laissé faire ce qu'on voulait sans contingence externe, on aurait adopté ce troisième enfant. Après, Joseph, il est ce qu'il est, enfin, je l'aime pas ni moins ni plus que c'est son frère et sa sœur, mais si, voilà, on est super heureux de la fin, voilà, c'est voilà, on est très 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 heureux. Mais non, j'ai jamais regretté. Ah non. Non, non, parce que moi, vraiment, enfin, c'est... je me rappelle de cette impression quand j'ai rencontré Gabriel. donc on avait passé la journée, la première journée avec lui, on était retourné à la pension, on s'est couché super tôt parce qu'on était crevés. Et j'étais couchée dans le lit et j'ai eu cette espèce d'impression animale. Tout mon corps criait que c'était mon fils. Vraiment, enfin, c'était pas que le mental qui disait que. Physiquement, il était à moi. Donc, partie de là, et ça a été la même chose pour sa sœur, jamais regret, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman parisienne, alors vraiment sur Paris, je pense que c'est pas toujours facile, hein. Je pense que ça court beaucoup et que voilà, l'avantage c'est qu'il y a tout à disposition, quoi. Tout est possible sur la capitale, en fait, voilà. Alors que, sur certaines provinces, c'est pas toujours le cas, voilà, juste ça, ouais.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
Alors, peut-être pas un endroit, mais tout ce qui est musée, en fait. Mmh. Même si c'est pas des musées spécifiquement faits pour les enfants, je pense qu'on peut faire n'importe quel musée avec n'importe quel enfant de n'importe quel âge si on trouve un minimum d'attrait. Vraiment, et ça, c'est la grande chance d'être sur Paris. Je pense que niveau musée, on a ce qu'il faut, en fait. Donc, ouais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, on a un projet en... qui est vraiment pour l'instant qu'une ébauche, mais on a envie d'offrir à notre aîné à un certain âge, alors ce sera peut-être pour ses 11 ans, ses 12 ans, c'est pas encore, ça dépendra de nos finances, mais un voyage dont il aura choisi la destination. Donc voilà, pour l'instant on a juste ébauché l'idée et on en discute un petit peu ensemble, savoir ce qui lui plairait ou pas. Et niveau personnel, et ben moi toute seule, je sais pas, de continuer comme ça. Je trouve qu'on a un équilibre assez chouette qu'on a trouvé assez vite à 5, même si c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, moi je bosse beaucoup, mais bon, on y arrive, donc de continuer comme ça, moi ça serait déjà pas mal.
Ouais. Merci beaucoup Stéphanie.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application podcast préférée. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet de l'adoption abordé avec Stéphanie, laissez votre commentaire directement sous la photo de l'épisode 48 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.